Merci à tous d'être là pour cette rencontre poétique autour des éditions Fond d'encre. Nous recevons aujourd'hui pour son recueil Laurence Lépine, intitulée « Je suis venue comme la neige ». Elle est entourée de son éditeur Philippe Biget et de son illustratrice, car le recueil comporte des encres, Florence Stromulken. Nous allons commencer par cuisiner notre éditeur qui va peut-être nous dévoiler les dessous de sa maison d'édition. Fond d'encre, c'est une petite maison d'édition poétique, plutôt confidentielle. Comment avez-vous l'idée de créer cette maison? De quand date-t-elle? Expliquez-nous tout.
Nous sommes en forme associative, association créée il y a exactement 10 ans, puisque nous venons de fêter notre 10e anniversaire. Structure associative à vocation littéraire et artistique. D'ailleurs, nous avons 2 membres de l'association. Nous sommes une douzaine de membres, parmi lesquels Mireille et Jean Corrèze, peintre fractaliste installé à Aisine, qui est un ami de longue date. Et notre activité principale au fil des années est devenue l'édition de littérature. Donc, et uniquement édition de littérature. Je vous reprends, chère Karine, sur le terme poétique, oui, mais nous sommes éditeurs de littérature dans laquelle la poésie doit trouver toute sa place. Mais nous éditons beaucoup d'autres choses que la poésie. Donc cette association a son siège en Limousin et nous sommes soutenus par cette région qui va bientôt devenir notre région commune. Puisque le Limousin a envahi l'Aquitaine, comme vous savez. Et donc, nous avons un petit catalogue qui est à votre disposition sur la table du fond. Donc, cette activité littéraire, d'édition littéraire, se décline en 4 collections. Une collection récits et fiction, dont voilà le dernier numéro, ce sont des nouvelles, romans, récits, enfin des écrits en prose. L'exigence est une qualité d'écriture et un ancrage dans une réalité contemporaine. La 2e collection, c'est Jalon du XXe siècle. Je n'ai pas sous la main, mais là, ce sont des textes donc du siècle passé qui sont introuvables et dont la réédition nous semble mériter. Le dernier, d'ailleurs, que vous avez chez vous, c'est une nouvelle réédition de texte du poète Alain Borne, dont on célèbre cette année le centenaire, et dont je suis très, très proche, je dirais, sur le plan du suivi et du commentaire. La 3e collection, c'est écrit sur l'art. C'est une collection qui ne comporte pour l'instant que deux ouvrages. Un ouvrage sur Jean-Sébastien Bach, il y en a un autre sur Paul Gauguin. Là, il s'agit d'une écriture d'un auteur d'aujourd'hui qui fait une démarche originale et littéraire vers un autre artiste, quelle que soit son époque et sa discipline. Et ça peut très bien concerner des artistes de moindre notoriété que Bach et Gauguin. Et 4e collection, c'est la collection Beaux Livres, dont on va parler. Là, il s'agit d'une collection qui a pour ambition de mélanger l'intervention d'un poète et d'un artiste des arts plastiques, quels que soient ses arts. D'ailleurs, ça pourrait être de la photographie également. Et là, nous en sommes à notre 4e volume. Le précédent, c'était un album commémoratif sur un poète kosovar, Ali Podrimia, qui est décédé il y a 2 ans au festival de Lodève. Feu le festival de Lodève, d'ailleurs, parce qu'il vient d'être supprimé. Et qui est un des plus grands poètes de langue albanaise contemporain. Et nous avons une activité dans ce domaine, parce que dans notre équipe, il y a Alexandre Zotos, qui est un des meilleurs traducteurs d'albanais en français. Et c'est pourquoi on a déjà publié 2 livres et il y en aura d'autres de cette origine. Voilà, j'espère avoir répondu.
Tout à fait. Alors un jour, vous recevez un manuscrit par la poste, puisque Laurence vous a envoyé son recueil par voie postale.
J'en reçois quelques-uns.
Oui. Voilà, comment vous faites déjà devant cette demande? Et après, comment vous décidez, celui-là, oui, il vaut le coup d'être publié?
Bah ça, c'est le problème lancinant de l'éditeur. Donc là, je ne connaissais pas Laurence. J'ai reçu, parmi d'autres, son recueil. Et j'ai été tout de suite accroché parce que je trouve qu'il y a un mélange d'approche, enfin son approche de la poésie est à la fois instinctif, mais il y a aussi un travail sur le langage. Donc c'est le mélange des deux qui, pour moi, qui est un petit peu le point d'accrochage pour répondre à votre question. Donc, je l'ai fait lire, parce que je décide rarement les choses tout seul, je l'ai fait lire à 2 ou 3 personnes à l'intérieur et à l'extérieur de notre structure. Et j'ai fait le bilan et j'ai décidé de tenter l'aventure. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Laurence et que nous avons monté ce projet.
Alors, premier recueil, parce qu'avant, tu avais été publié dans des revues.
Oui, dans des revues, Poésie Première, Friche, je ne me souviens plus des ordres. Arpa, merci. Arpa.
Alors, l'émotion devant ce premier recueil, d'apprendre... Oui, celui-là, il a trouvé preneur.
C'était curieux parce que Philippe m'a appelé le jour de mon anniversaire.
Alors, c'est un joli cadeau.
J'ai pas répondu parce que j'avais pas envie de parler. Et le téléphone a sonné ensuite sur le portable. J'ai pas répondu non plus. Et puis mon ami, quand même, qui a du bon sens et qui est un ange gardien, m'a dit: tu devrais quand même regarder qui appelle. Alors j'ai fait un numéro inversé. Et puis là, j'ai vu que l'adresse, c'était l'adresse à laquelle j'avais envoyé le manuscrit. Voilà comment a débuté l'histoire. C'est un beau cadeau d'anniversaire.
Alors la poésie, il faut l'écouter, il faut la vivre, il faut l'entendre. Je te propose de nous lire pendant une petite dizaine de minutes des poèmes de ton recueil.
Je peux en lire... Oui, je vais...
Vas-y.
Nous allons écouter la poésie.
Du milieu des roseaux, je me dresse... Plus petite que la dernière née. Rassemble tes forces, ma vie cherche tes mains. Des fleurs sont venues à moi, vêtues des vêtements que tu portes. C'est d'abord toi que j'ai reconnu, puis de tes mains ont jailli leur parfum. J'avance, tendant mes multiples visages au vent. L'étoile du matin embrasse celui de mon enfance, le gnome, unique splendeur. Tu lèves au-dessus de mon sommeil des lignes d'astres. Tu es le mouvement au-dessus du lac, la danse dont le reflet nous achemine. Tu viens vers moi, disant mon prénom. Le bleu du ciel me tombe dans les yeux. Je ne suis rien de plus que ce temps dont tu te souviens. Un ange aux ailes de feu. Mon cœur se laisse écraser par tes doigts, le décide. Ne cherche rien d'autre que ton poids. Comme le ciel en cette fin de jour, l'éclair de ta bouche prononce mon nom. Outrepassant mes faiblesses, je marche jusqu'à la bouche qui me nomme. Je suis le dédale où tu viens enfermer ton soleil. Les murs de mon visage s'abattent devant moi. Mon cœur est une maison qui s'ouvre. La première fois que je suis venue à toi, je suis venue comme la neige, sans le savoir. Je ne sais ce que mon cœur attend de moi. Un geste, pourtant, s'est déjà inscrit dans mes membres. Il affleure. Je le suis. Faudra-t-il encore une vie entière pour que mon chemin croise à nouveau ton chemin ? Je suis passée ce matin par le chemin des roses, n'ai su distinguer sur la branche celle qui hier m'avait charmée. Ainsi sais-je à quoi m'attendre. Toi non plus ne me reconnaîtras pas. Une étoile brille quelque part dans mon sang, les prés fleuris de tes cils battaient alors à mes paupières. La neige me tenait cachée sous elle, tu me cherchais au fond de ses prunelles, j'étais déjà agrippée à ton cœur.
Là, je me permets d'intervenir parce que je voudrais profiter de cette lecture pour vous dire que Fond d'encre n'est pas la seule structure à avoir reconnu le talent de Laurence, puisque les éditions Encre Vive, dirigées par Michel Cosem à Toulouse, viennent de publier dans la collection Encre Blanche cet autre recueil, Mon cœur de son cœur sait prendre. Et je vais vous demander à Laurence de lire un ou deux extraits de cela avant de terminer sur la neige.
J'avance pieds nus. Mon rôle est de fouler la terre, de regarder l'oiseau et le fruit. Certains matins, je vois le feu s'extraire de son corps et venir occuper le mien. Le long de mon chemin surgissent les ombres, les pleurs rendus à la terre. Court en moi la folle idée que rien de plus libre que le feu ne peut m'approcher, m'investir. Je me déploie, feuillage au sein du feuillage, naissante et consumée à la fois. Le feu court au creux de chaque branche. En moi perle la part la plus subtile de mon cœur. Il m'enveloppe, se place face à ma nuit, se tient à l'intérieur de moi comme au centre de lui-même. Seul véritable souffle, âme de mon âme, quiconque maintenant peut approcher la main. Joyeuse jusque dans l'absence de joie, inquiète dès le premier pépiment, je sens jour après jour monter en moi une âme de fruit mûr.
Merci Laurence, et je vais te demander de terminer par
la neige.
En revenir à notre recueil avec deux ou trois poèmes, s'il te plaît.
Mon cœur sort de ma poitrine et tisse un chemin jusqu'à toi. Du feu, là où tu ne crois voir personne, un brasier de nouvelles accourant. Je continue à regarder, te rends hommage du bout des doigts. Mon cœur va apparaître, je le sais. J'ai confié à l'oiseau ma tristesse, moi qui suis de l'autre côté de son ciel. Il l'a prise sous son aile, lui a donné un prénom. Le vent qui fait trembler les feuilles s'agite aussi dans mon sang. Une lame est entrée sous ma peau, ne détruit rien mais apaise, dépose sur le fond de l'âme une suite de mots oubliés. Pour ne plus être seule, je voudrais que mon corps s'ouvre en deux, qu'une moitié saisisse l'autre par le bras. La plus ancienne des deux chanterait en marchant. Moi, j'écouterai son chant, tout occupée à me voir réapparaître.
Merci. Alors à chaque fois quand j'entends Laurence lire ses poèmes, je suis frappée par la beauté et la simplicité de sa langue, parce que c'est pas facile de parler, par exemple, de sentiments, d'amour. J'ai entendu peut-être 10 fois le mot « cœur », là. Et puis on sent la prégnance de la nature, des éléments. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton écriture ? Tu as des thèmes qui reviennent ? Des obsessions, peut-être ?
Des obsessions, beaucoup. ce qui est important, c'est d'arriver à se mettre dans un état où la nature va pouvoir parler sa langue. Et moi, je vais être là pour la traduire, pour écrire ce qui reste du passage de l'arbre, ou ce qui reste du passage du nuage ou de la pluie. Je suis juste là pour tenir le stylo et écrire.
Il y a une image qui surgit ou c'est le mot qui vient ou...
Des fois, ça arrive en bloc. Ça tombe tout cuit. Il n'y a plus qu'à noter. D'autres fois, il faut... D'autres fois, c'est comme si j'avais mal entendu. Je me dis, tiens, ce mot, j'ai du mal à l'entendre. Alors, du coup, je le corrige. Mais ce sont les mots qui arrivent.
Qui arrivent, si je peux me permettre, sous l'impulsion de cette fusion avec la nature environnante qui me semble être quelque chose d'assez permanent chez toi. Mais tu peux me contredire.
Non, c'est vrai. En fait, il y a quelque chose qui me rend très triste. C'est, comme beaucoup de gens, sans doute, c'est la privation de la liberté. Et j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin d'être entourée... J'ai besoin d'être entourée de mes arbres tous les soirs. Je ferme la fenêtre et souvent, je l'ouvre à nouveau pour pouvoir voir une dernière fois les arbres. Et puis, je referme et les voisins doivent un peu grogner parce que ça craque. Mais voilà, j'ai besoin de... j'ai besoin de les voir.
Mais ta respiration, c'est l'écriture, de toute façon.
Oui, ma respiration, c'est l'écriture, oui.
Alors, la neige, elle est présente dans le titre aussi, les éléments. Mmh. Et je me demandais comment Florence s'était emparée de tes poèmes pour les illustrer. Vous les avez lus, quelque chose s'est passé. Comment on invente une illustration à partir de mots? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Eh bien, moi, tout d'abord, j'ai lu la totalité des poèmes. Ensuite, j'ai relu, et je m'en suis imprégnée de certains qui me parlait, si je puis dire. Et donc, cela, j'ai eu envie, effectivement, de les mettre en image. Voilà, je ressentais quelque chose travers ces mots, et c'est comme ça que j'ai eu envie de les mettre en image.
Alors, tout ce que vous voyez autour de vous, tous les cadres, ce sont les œuvres de Florence qu'elle a installées toute la journée, m'a-t-elle dit. Vous travaillez au bambou? Vous travaillez à l'encre?
Alors, je ne travaille pas du tout au bambou. Je travaille uniquement au pinceau, en poil de chèvre en général, ou poil de loup. Et c'est uniquement sur du papier de riz. Voilà, directement à l'encre de Chine, directement peint sur le papier. Jamais au crayon, au papier avant, directement à la peinture. Et vous pouvez voir à l'entrée les 9 originaux qui ont donc été imprimés dans le recueil de poèmes de Laurence, ceux qui sont dans le livre de Laurence. Et donc, les autres peintures, il y en a certaines qui sont faites toutes sur du papier de riz. Ensuite, il y en a certaines qui sont marouflées sur des châssis, les tableaux que vous voyez. Ces châssis sont ensuite... il y a plusieurs couches de papier de riz. Donc, il faut savoir que les châssis, avec les tableaux, les peintures à l'encre, il y a à peu près 5 couches de papier. Du papier de riz, c'est un mélange d'écorce d'un arbre et de riz. Voilà. Et c'est extrêmement fin. Vous en avez, j'en ai accroché à côté des petits des originaux en haut. C'est comme du papier à cigarette, si vous voulez, presque comme du papier de soie. S'il y en a qui ont plus l'habitude du papier de soie, c'est presque comme du papier de soie. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins épais, mais je travaille essentiellement sur des papiers très fins, comme ça. Et puis, il y en a certains qui sont aussi montés sur tissu. Les deux grands blancs, qu'on appelle plus communément des kakémonos. Alors, ce sont des kakémonos faits à ma façon, parce que ce n'est pas le kakémono traditionnel. Le but du kakémono, normalement, c'est donc sur un tissu qui est en longueur. Et ils représentent chaque saison. Et ils sont souvent mis dans les maisons et ça départageait les pièces au Japon. Voilà. Mais ça, c'est donc assez décoratif aussi. le kakemono.
Vous connaissiez le travail de Florence quand vous lui avez demandé d'illustrer le recueil, ou comment ça s'est passé, votre rencontre à tous les trois, finalement?
Oh, oui, alors, c'est une très bonne question. Parce que dans cette collection Beau Livre, le choix du mariage entre un poète et un artiste, pour moi, c'est l'intuition de l'éditeur. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a d'autres éditeurs qui procèdent autrement. Donc, après avoir pris la décision d'éditer le recueil de Laurence, je me suis demandé avec quel artiste j'allais la marier. Et... je ne connaissais pas Florence. Et j'avais vu son travail dans une exposition à Paris, une exposition centrée sur le travail qu'elle vient de définir, où il y avait plusieurs artistes qui sont dans cette école avec un maître coréen, je crois, dont je ne vais pas dire le nom parce que je vais l'estropier, mais Florence le dira tout à l'heure. Et donc, j'aimais bien cette technique parce qu'elle est très, très méticuleuse. Enfin, ce que Florence n'a pas dit, elle me corrigera si je dis une bêtise, c'est que l'une des caractéristiques de cette façon de peindre, c'est qu'on n'a absolument pas droit à l'erreur ni à la retouche.
Exact. Enfin, si on peut utiliser l'erreur, justement. Si on fait une erreur, on l'utilise dans la peinture.
Voilà, ça revient à peu près au même. Et donc, voilà, j'ai eu cette... Alors, il y avait évidemment plusieurs peintres dans cette exposition. Bon, alors, c'est très difficile de choisir. Mais je voulais aussi donner une dimension sud-ouest à ce livre. Donc ça a été aussi une des raisons qui m'ont fait pencher pour le choix de Florence, que je ne regrette pas du tout. Et voilà, et donc j'ai pris contact avec elle, puisque nous ne nous connaissions pas. On s'est vus deux fois, je crois. Ouais. Et je lui ai présenté les poèmes, et voilà. Et donc les deux... amis qui sont à ma droite ne s'étaient pas rencontrés physiquement. Elles s'étaient rencontrées de façon immatérielle, pour moi c'est largement suffisant au niveau de la création artistique. Florence a travaillé sur les poèmes de Laurence sans échanger avec elle. Elles ne se sont rencontrées qu'après. Ce n'est pas toujours la façon dont on travaille, mais c'est une façon tout à fait recevable en ce qui me concerne.
Alors, j'ai été étonnée quand Laurence m'a dit qu'il y aurait des encres dans le recueil, et qu'ensuite j'ai vu arriver le livre, j'ai été étonnée du petit format. Quand elle m'a dit des encres, j'imaginais un album. Ou... Quel est votre choix pour ça aussi? Parce qu'ils sont tous différents, en fait, hein?
Alors, je reviens un peu en arrière, parce que dans les quatre collections, il y en a trois qui sont formatées 15-22, c'est-à-dire la collection écrit sur l'art, récit et fiction, et jalons du XXe siècle. Par contre, j'ai voulu absolument que dans la collection Beau Livre, ça ne soit pas une collection formatée. Parce qu'à partir du moment où il y a une intervention d'un artiste, j'estime que l'artiste a son mot à dire sur le choix du format. Ça, c'est un principe très, très, très important pour moi. Je ne veux pas être directif à ce niveau-là, au niveau d'un artiste. Voilà. Alors, pourquoi ce petit format, Karine? Très bonne question, une de plus. comme vous avez remarqué, les poèmes de Laurence sont très courts, minimalistes, et je tenais absolument à ce qu'il y ait un seul poème par page, parce que ça me paraît très très important pour dans le rapport du lecteur à la poésie. Donc le choix était possible, même avec une police tout à fait confortable, d'avoir un petit format. Donc j'ai pensé au petit format carré qui fait un peu plaquette, boîte à bijoux, enfin quelque chose comme ça. Et j'en ai parlé avec Florence quand on s'est vu. Et voilà, on en a parlé très librement. Oui. Et voilà, il n'y a pas eu de réticence de sa part. Et nous avons opté sur cette voie et sur la voie du fond perdu aussi, qui me paraît très, très visuellement très important dans un recueil comme celui-ci.
Vous avez déjà illustré des recueils ? Vous avez déjà une œuvre en librairie ou...
Non, j'ai jamais. C'est la première fois que j'ai illustré un recueil. D'accord. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'étais très contente que FIP me propose cette recherche, de ce travail en commun.
Ouais. Et vous êtes artiste à temps complet ? Qu'est-ce que vous faites quand vous ne peignez pas ? Oui, on ne vous connaît pas, c'est pour ça que je pose des questions indiscrètes.
Ah, j'aimerais bien être artiste à temps complet. Ah.
Voilà.
La vie ne me le permet pas encore aujourd'hui. Je peins, oui, je peins beaucoup. Pas assez à mon goût, mais je donne des cours d'encre de Chine. Je fais des interventions dans des associations où je donne des cours. Je fais d'autres choses. Enfin, je suis quand même dans ce domaine-là depuis très longtemps. Je suis designer textile à la base. J'ai travaillé à Paris pour des maisons de haute couture. Donc ça, c'est mon métier. Et puis en arrivant, je vous explique un petit peu qui je suis, puisque apparemment c'est le but de la question.
Si vous le voulez bien.
Donc moi, j'ai fait une formation de dessin de décoration à Paris dans les années 80. Et puis donc pendant une vingtaine d'années, j'étais designer textile pour des créateurs ou dans le milieu de la haute couture à Paris. Parallèlement à ça, j'ai donc rencontré Maître Ung-No Lee, qui est donc le maître coréen qui m'a enseigné la peinture à l'encre de Chine à l'Académie orientale de Paris en 1987. Je l'ai suivi pendant 2 ans parce qu'il est décédé en 1989. Mais j'ai continué à travailler avec sa femme et avec son fils. Et je continue encore aujourd'hui à être en relation avec eux. Donc je fais régulièrement des expositions avec eux et je suis régulièrement des stages de formation avec eux et avec d'autres peintres français et coréens. Je suis partie en Corée aussi pour faire un stage. Parallèlement à ça, j'ai suivi aussi les ateliers des Beaux-Arts de Paris pendant 7 ans. Et donc, je suis venue ici ensuite en région bordelaise et j'ai continué à dessiner, à essayer de travailler dans le textile, ce qui n'est pas évident en région bordelaise. Et je me suis donc plus orientée vers l'enseignement du dessin textile et j'ai plus développé la peinture et j'ai décidé d'enseigner ce qu'on appelle plus habituellement le soumié. Le soumié, c'est le travail de la peinture à l'encre de Chine. Et donc, j'ai monté des cours à Bordeaux sur cette peinture-là. Et j'interviens aussi en tant que designer ou peintre ou sérigraphiste, parce que je fais de la sérigraphie aussi, dans des écoles d'art. Voilà. Et puis, donc, j'ai rencontré Philippe qui m'a fait faire un travail sur l'illustration. Et j'aime beaucoup ce travail-là, l'illustration. Mettre en image... des textes travaillés en duo, je trouve ça très intéressant.
En plus, il me semble que vos deux univers peuvent se correspondre parce qu'il y a beaucoup de nature aussi. Hein,
ah oui,
dans
oui.
Oui.
Ah oui, j'aime beaucoup la nature. Oui. D'ailleurs, je vis à Sauternes entre les vignes et je suis vraiment dans la nature. J'ai plein de bambous dans mon jardin.
Et tu as été étonnée, Laurence, quand tu as découvert... Enfin, est-ce que tu les as découvertes, du coup, avec le recueil paru, les encres ?
Non, Philippe me les a montrées un petit peu avant.
Hein. J'ai fait ça ?
Ouais. Et voilà, quand j'ai vu la neige, c'était magnifique. Et puis, en fait, c'est vrai, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. pas eu le besoin de se rencontrer avant parce que les dessins, les encres parlaient d'elles-mêmes. Et puis après, on a décidé quand même de se voir.
C'était quand même mieux. Voilà. Alors, tes influences poétiques, peut-être. On pourrait parler aussi de ce qui t'a nourri.
Il
y a des rencontres marquantes.
Oui, il y a des rencontres marquantes. Il y a Paul Celan, évidemment. Paul Celan, c'est une amie qui m'a un peu encouragée à lire Paul Celan parce qu'elle trouvait que mes poèmes... Elle disait que j'écrivais des ruines. Et elle m'a dit, tu devrais aller voir du côté de Paul Celan, peut-être que ça te parlerait. Voilà, ça fait un petit bout de temps. Il y a Emily Dickinson, évidemment. Il y a Rose Auslander. Qui d'autre ? J'en oublie sans doute. Federica Garcia Lorca. Armatova. D'ailleurs, si je me suis inscrite au cours de russe, c'est pour pouvoir essayer de lire les poètes. Quand j'arrive à lire un vers, je suis très, très contente. Voilà. Paul Celan, c'est comme un... Paul Celan, c'est comme un minerai qui viendrait d'ailleurs. Quand on lit un poème de Paul Celan, enfin quand je lis un poème de Paul Celan, c'est quelque chose qui, c'est comme si c'était quelque chose qui n'appartenait pas à notre terre. Ça vient d'ailleurs. J'aime beaucoup Paul Celan.
On ne devrait plus lire du Paul Celan. J'ai pas pensé à mener un recueil là. Oui.
J'ai une ou deux phrases dans la poche.
Ah oui, vas-y. C'était pas prévu, c'est bien.
Mais c'est une ou deux phrases, j'y suis tombée ce matin, mais voilà. Et puis, ça tombait un peu comme ça, quoi. Parce que la poésie, je trouve que c'est ça aussi. C'est toutes ces rencontres qui se font soi-disant par hasard, mais comme je crois pas du tout au hasard, elles se font, voilà. Et ce matin, donc, j'ai lu ces deux vers. Tu ouvres la maison où tournoie la neige des choses tues. Et puis, il écrit aussi « Qui peut partager la course des flocons ?» Voilà, je trouvais qu'aujourd'hui, ça tombait bien de tomber sur ces deux vers de Paul Celan. Qu'ils viennent.
Philippe, vous aimez les poètes alors, vous aussi ? Vous aimez les poètes, vous aussi ?
Ah, beaucoup, oui, oui. Bien sûr. Bien
les
sûr.
Classiques, qu'est-ce que vous lisez en poésie ?
Oh, ben, oui. Ça, alors là, on peut passer la nuit, là, mais... Oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup Rimbaud, évidemment, qui est un peu à l'origine de la poésie moderne, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres... Et puis, ça ne m'empêche pas de retourner au classique de temps en temps. J'ai une grande passion pour Louise Labbé. Ah. Donc, vous voyez où ça ne date pas d'hier. Donc, voilà, il n'y a pas d'âge pour la poésie. Oui. Louise Labbé, Racine, voilà.
Vous êtes dans l'univers des mots aussi, Florence ? Vous lisez la poésie ?
J'en lis, oui, j'aime beaucoup ça. Donc, j'étais très contente de mettre en image des poèmes. Ouais, ça me plaît beaucoup.
Peut-être l'aventure va perdurer.
Peut-être.
Bon, je peux ajouter Alain Borne quand même, puisque j'en parlais tout à l'heure au début, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, un poète qui est né en 1915 et dont on célèbre le centenaire cette année. Il est mort en 1962. C'est un grand poète lyrique du milieu du XXe siècle qui a eu une destinée un peu particulière. Il est né dans l'Allier, juste au début de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, sa famille a émigré vers l'Ardèche. Le père était ardéchois. Et il a passé la plus grande partie de sa vie à Montélimar, où il était avocat. Voilà, depuis une vingtaine d'années, je passe une partie de mon temps à m'occuper de la réédition de ses œuvres et aux commentaires de ses œuvres. Parce que là, il y a à Montélimar, il y a cette année plusieurs manifestations pour commémorer ce centenaire. Et j'y suis associé, je ne suis pas le seul bien sûr, mais j'y suis associé. J'ai donné une conférence le 6 mars dernier. Je vais en donner une autre à Valence, Valence de la Drôme, en novembre. Je participe à l'élaboration d'un concert récital avec le compositeur Lionel Ginoux, qui sera donné à Montélimar également en octobre. Voilà. Et puis il y a eu cette réédition dont je parlais au début, sous le titre « L'amour brûle le circuit », avec la réédition de 4 de ses derniers titres et des extraits inédits de son journal intime qui donne un éclairage sur son évolution à la fois littéraire et psychologique.
Alors vous avez employé le mot mysticisme et je pensais que Laurence aussi avait cette dimension-là dans ses poèmes. Je parlais d'amour, de lyrisme, mais il y a aussi de la nature, mais il y a aussi un côté mystique chez toi.
Oui, parce qu'il y a la lecture aussi évidemment de mystique, hein, de Saint Jean de la Croix, les écrits de Madame Guyon, voilà, il y a toute une littérature aussi mystique. Certains de ses poèmes aussi sont adressés, on l'appelle comme on veut, enfin, on l'appelle Dieu, on l'appelle, on l'appelle le souffle, on l'appelle l'esprit. Voilà, oui, il y a aussi une dimension mystique, bien sûr.
Je me rappelle de toi quand tu venais au rayon acheter tous les Christian Bobin.
Aussi. Oui, bien sûr. Oui, Christian Bobin, il y a Romanès aussi, bien sûr, hein, voilà, que j'ai rencontré, et puis avec qui je me suis bien entendue tout de suite à cause de sa simplicité, de sa générosité. Il y a un poème d'Alexandre que j'aime beaucoup qui dit « On devrait écrire sur des papiers ramassés par terre, hein, ça obligerait à aller à l'essentiel. » Voilà. J'aime beaucoup ce poème. Et il y en a un autre aussi qui dit « Aujourd'hui, j'ai reçu une convocation pour aller en prison, mais j'ai écrit aussi 2 poèmes. Aujourd'hui est quand même une belle journée. » Voilà, je me suis bien entendue avec Alexandre.
Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'une fois, tu m'as dit, si je n'écris pas un poème par jour, c'est une journée où je n'ai pas vécu.
C'est une journée où je n'ai pas vécu et c'est une journée où je n'ai rien volé à ce monde qui nous dévore, quoi.
Donc c'est aussi une question de survie, la poésie.
Absolument, oui, c'est ce que je voulais dire, que ces petits poèmes, c'est aussi des toutes petites barricades de mots que je dresse contre cette société qui nous broie, quoi, que je n'aime pas beaucoup, qui nous voilà. C'est aussi une façon de résister à ma façon.
Merci à vous.